Radio Prague, les informations. Bonjour, élection présidentielle, le vote a commencé ce jeudi au Brésil. Alcool frelaté, la Slovaquie va supprimer les restrictions appliquées sur les ventes des spiritueux tchèques. Et puis enfin, l'histoire des familles nobles françaises sera présentée en 2013 dans les châteaux tchèques. C'est donc sur le continent américain qu'a commencé ce jeudi l'élection du nouveau président tchèque qui se déroule pour la première fois au suffrage universel direct. Alors qu'en République tchèque, ainsi que dans le reste de l'Europe, les bureaux de vote s'ouvriront vendredi à 14h. Les premiers électeurs se sont rendus aux urnes ce jeudi à 17h, respectivement une et deux heures plus tard a également débuté le vote en Argentine puis sur la côte est des États-Unis. D'après les informations communiquées par le ministère des Affaires étrangères, près de 7200 électeurs tchèques entendent voter à l'étranger, dont plusieurs centaines dans les villes américaines, la participation la plus importante étant traditionnellement attendue à New York. La Slovaquie va supprimer à partir de mardi prochain, 15 janvier, les restrictions sur les ventes de spiritueux tchèques. Ces restrictions sont appliquées depuis le 9 octobre dernier, suite à l'affaire de l'alcool frelaté qui a causé la mort d'une quarantaine de personnes en République tchèque. Les autorités sanitaires slovaques estiment que les risques de danger sont désormais passés et que la situation est revenue à la normale. Les spiritueux tchèques seront donc de nouveau vendus sans restrictions en Slovaquie. Le gouvernement tchèque a donné son accord pour l'envoi de 4 de ses soldats en Turquie. Leur mission consistera à protéger la frontière avec la Syrie, ou plus précisément à veiller au bon fonctionnement des systèmes de communication. Fin janvier, les 4 soldats tchèques devraient ainsi rejoindre leurs collègues slovaques et polonais, chargés eux aussi de protéger la Turquie contre d'éventuelles attaques en provenance de la Syrie. La Syrie qui est ravagée, rappelons-le, depuis bientôt 2 ans par la guerre civile. En fin d'année dernière, la Turquie a demandé auprès de l'OTAN des missiles Patriot afin de sécuriser sa frontière avec la Syrie, une frontière longue de plus de 800 km. Le Théâtre National ouvre sa programmation 2013 avec la première ce jeudi soir de l'opéra La guerre des salamandres, une œuvre adaptée du roman éponyme de Karel Čapek et dont la musique a été composée par Vladimir Franz. Vladimir Franz qui est également candidat à l'élection présidentielle. Cette première a lieu la veille du début du premier tour du scrutin. Du coup, Vladimir Franz, célèbre pour avoir un corps intégralement tatoué, a choisi de ne pas participer au dernier débat télévisé réunissant tous les candidats qui se déroulent également ce jeudi soir. Un hommage aux familles nobles françaises et franco-belges qui se sont installées dans le passé dans les pays tchèques sera rendu tout au long de cette année dans les châteaux, galeries et musées de République tchèque. Les visiteurs auront ainsi l'occasion de découvrir ou d'apprendre à mieux connaître la maison de Rouen, les familles des Fours, Bucquois de Longeval, Arbuval de Chamaret, Mensdorf-Pouilly, Beaufort-Spontin ou encore Napoléon II qui a été duc de Reichstadt, le nom allemand de la petite ville aujourd'hui appelée Zakupy dans le nord de la Bohème. Différentes manifestations seront ainsi organisées par les organisateurs dans le cadre du projet intitulé « Sur les traces des familles nobles ». En fin d'année se tiendra notamment au château de Prague une exposition intitulée « La culture française dans les châteaux ». On passe au sport et au sport automobile. En tête avant le départ, Aleix Loprijs a rétrogradé à la 8e place du classement général du Rallye Dakar dans la catégorie camion à l'issue de la 5e étape disputée mercredi entre Arequipa au Pérou et Areca au Chili. Au volant de son camion Tatra, le pilote tchèque a été victime de nombreux ennuis techniques qui lui ont fait perdre près de 2 heures de temps sur le leader de la course, le néerlandais Gerard De Roy. Du coup, le pilote tchèque le plus proche du podium est désormais Martin Kolomny. Lui aussi à bord d'un camion Tatra, il possédait un peu plus d'une demi-heure de retard sur De Rouille. On termine avec un mot de météo. Le retour d'un froid plus important et d'un temps plus conforme à cette période de l'année est attendu à partir de ce vendredi, jour de la fête des Bordana. Les nuages restent très présents et entraînent quelques chutes de neige à caractère local, y compris en plaine. Les températures sont logiquement en baisse et varient entre moins 4 et 1 degré pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Pierre Maignan pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce jeudi, les fumeurs et amateurs de boissons en Tchéquie pourraient ne pas être à la fête sous peu. Un nouveau projet de loi du ministère de la Santé que va vous présenter Marion Dautry dans quelques instants risque en effet de limiter l'accès au tabac et à l'alcool. En deuxième partie d'émission, tourisme avec Yaroslava Gisubelova. Nous partirons à Tabor, la cité hussite située au sein de la bucolique Bohème du Sud et qui accueille de nombreux musées. Mais avant tout cela, place à la première élection présidentielle au suffrage universel direct qui débute demain vendredi et se poursuit samedi. Nous vous proposons un petit rappel des règles du jeu. Bonne écoute à tous et à toutes. Pour la première fois dans la courte histoire de la République tchèque, ses habitants vont pouvoir choisir directement leur président. Tous les électeurs sont en effet appelés aux urnes ces vendredi et samedi 11 et 12 janvier pour départager les 9 candidats à l'investiture suprême qui achèvent leur campagne par un débat qui devrait tous les réunir ce jeudi soir à la télévision tchèque. Certains d'entre eux ont profité de ce mercredi pour rencontrer leur soutien et organiser des rassemblements culturels. Le prochain président tchèque, s'il ne jouira toujours pas d'une importante marge de manœuvre au vu de ses prérogatives limitées, droit de veto, nomination des juges et des membres dirigeants de la Banque nationale tchèque, représentation à l'étranger, disposera cependant de la légitimité populaire. Il aura été élu pour la première fois par l'ensemble de ses concitoyens, en tous les cas par tous les Tchèques majeurs munis de leur carte électorale, comme le précise Vladimír Hřebka du ministère de l'Intérieur.
Voli. Občan České republiky, který druhý den voleb dosáhl věku 18
sont appelés à voter tous les électeurs de République tchèque ayant atteint l'âge de 18 ans avant le deuxième jour des élections. Cela signifie que si quelqu'un a son anniversaire le samedi, deuxième jour du premier tour des élections, alors il peut voter. S'il célèbre son 18e anniversaire lors du second tour, alors il pourra participer à ce second tour. Après, avec cette carte électorale, vous pouvez voter n'importe où, dans votre résidence principale ou ailleurs, même si vous changez d'avis.
Et například v místě trvalého bydliště, kdybyste si to nakonec rozmysleli.
Ainsi, muni de cette carte électorale qu'il est possible de demander jusqu'à ce jeudi, l'électeur peut voter dans n'importe quel bureau de vote de République tchèque, des bureaux de vote qui sont souvent les mêmes que ceux employés lors des élections régionales d'octobre dernier. Vladimír Hřebka.
L'élection présidentielle se tient le plus souvent aux endroits où ont lieu les élections législatives ou régionales, vendredi de 14h à 22h et samedi de 8h à 14h.
Krajských voleb v časech v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Avec la carte électorale, il est également possible de réaliser son devoir citoyen dans les consulats et ambassades tchèques à l'étranger. Or, avec le décalage horaire, ce vote doit débuter dès ce jeudi, d'abord au Brésil à 17h, heure locale en République tchèque, puis progressivement sur tout le continent américain. Le ministère des Affaires étrangères s'attend à ce que 7200 tchèques de l'étranger aillent voter. C'est le consulat de New York qui doit connaître l'affluence la plus importante, suivi par ceux de Washington, Chicago et Los Angeles. Les spécialistes de l'Office tchèque des statistiques s'activent depuis le mois de juin pour préparer le scrutin et selon František Konečný, le directeur du département méthodologie de l'institution, le dispositif est bien en place et est le fruit de l'expérience en la matière depuis 1990. Aussi, les premières estimations des résultats devraient être rendues publiques dès samedi en fin d'après-midi.
My předpokládáme na základě těch zkušeností z předchozích voleb, že bychom první okrsek mohli mít zhruba.
Sur la base des précédentes expériences électorales, nous supposons que nous serons en mesure de disposer des premiers résultats dans certaines circonscriptions après 30 minutes et nous nous attendons à ce que vers 18h, 99,9% soient traités, donc une très grande majorité. Cela dépend vraiment du moment auquel nous recevons les derniers procès-verbaux des commissions électorales. C'est seulement alors que nous pouvons boucler l'élection présidentielle et se lancer dans le traitement centralisé de ces données.
La règle du jeu est la même que pour les élections sénatoriales. Le candidat qui obtient plus de 50% des voix remporte l'élection. C'est cependant très improbable et si aucun des 9 candidats ne parvient à rassembler plus de la moitié des électeurs, alors les 2 candidats arrivés en tête s'affronteront une nouvelle fois dans 2 semaines, le vendredi et samedi 25 et 26 janvier prochains. Le nom du prochain président de la République ne sera donc vraisemblablement connu qu'à la fin du mois de janvier. Il sera élu pour 5 ans et ne pourra pas effectuer plus de 2 mandats successifs. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Pourquoi pas celle de moins boire et de moins fumer? Le ministre de la Santé, Léo Schäger, espère bien encourager les bonnes volontés et faire plier les mauvaises avec un nouveau projet de loi anti-tabac avec Marion Dautry.
Le ministre de la Santé persévère dans sa volonté de légiférer sur les ventes de tabac et d'alcool avec une nouvelle proposition de loi. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement s'attaque au sujet, mais jusqu'à présent sans succès. Le quotidien Mlada Fontadnes compare même cette ambition au mythe de Sisyphe. La pierre, c'est l'interdiction de fumer dans les restaurants, et la montagne, c'est le Parlement tchèque. En effet, toutes les tentatives de limiter les espaces ouverts aux fumeurs ont été retoquées par les députés, qui comptent dans leur rang de nombreux adeptes de la cigarette. Le député de l'ODS, Boris Tchiasny, soutient la nouvelle proposition de loi et semble cette fois plutôt optimiste sur le suivi des députés et des sénateurs.
Il dépend de la proposition du gouvernement que j'attends que les gens s'associent à ce projet ou non. Bien sûr, ils se rendent compte que certains collègues peuvent avoir une opinion personnelle à ce propos, comme sur un autre sujet. Personnellement, je vois clairement à la Chambre des députés et au Sénat une majorité de supporters de cette proposition.
Cependant, l'année dernière, un projet de loi semblable avait déjà été rejeté sous la pression des lobbies du tabac. Il faut également compter sur la possibilité d'un veto du futur président. Le favori des sondages, Miloš Zeman, a déjà annoncé qu'il s'opposerait au passage de cette loi s'il en a l'occasion. Une proposition de loi qui ne devrait pas seulement faire gronder les lobbies du tabac, puisqu'elle s'attaque également à l'alcool et prévoit un certain nombre d'obligations pour les établissements qui en proposent. Les boissons alcoolisées devraient ainsi disparaître des marchés et des kiosques, à l'exception des événements ponctuels, pas de panique donc pour le vin chaud à Noël. Les établissements de l'hôtellerie et restauration devront eux apporter un changement qui peut sembler anodin mais qui dans ce pays est de taille. La loi prévoit en effet l'obligation de proposer au moins une boisson sans alcool à un prix inférieur à celui des boissons alcoolisées. Une mesure contre-productive selon Václav Starek, président de l'association des hôtels et restaurants.
D'après nous, cette mesure est un parfait non-sens qui ne résout rien. Les jeunes vont au restaurant justement pour prendre une bière, et je ne parle pas des mineurs qui ne peuvent pas en obtenir. Cette mesure va faire diminuer la consommation d'alcool. Le gouvernement montre seulement que depuis un moment, il fait tout pour gêner les entrepreneurs. Il y a eu l'augmentation de la TVA et toutes ces mesures comme la prohibition qui étaient clairement dues à un manque de vigilance de l'État et à l'incurie du marché noir de l'alcool. Toutes les réponses de l'État retombent sur les entrepreneurs et cela ne nous plaît pas.
Au cœur de la loi, les jeunes, un élément de taille qui pourrait pousser son adoption. Les mineurs sont en effet le cheval de bataille de la proposition du ministre qui souhaite lutter contre la consommation d'alcool et de tabac chez les moins de 18 ans. La nouvelle loi prévoirait ainsi une augmentation des peines en cas de vente d'alcool à un mineur, 1 million de couronnes pour les moins de 18 ans, 2 millions pour les moins de 15 ans. Certains espaces tels que les fumoirs des aéroports pourraient même leur être interdits. Léo Schäger s'attaque également à un autre ennemi plus complexe, Internet, avec l'obligation pour les vendeurs en ligne de contrôler l'âge de leurs acheteurs. Si la proposition de loi sera probablement soumise aux mêmes pressions des lobbies que les précédentes, son accent sur la jeunesse pourrait lui apporter d'autres soutiens. Le ministre de la Santé du cabinet fantôme du Parti social-démocrate, Jan Jalaudik, a d'ores et déjà exprimé son appui, même s'il regrette la perte de revenus liée aux taxes sur la consommation.
Une destination touristique sur la route qui relie Prague à Český Krumlov, c'est la ville de Tabor, symbole de la résistance hussite. Construite en 1420 par des disciples du réformateur Jan Hus, Tabor, qui signifie « camp » en tchèque, tient son nom du mont biblique de Galilée, Tabor. Entourée de remparts, la ville a conservé son dédale de ruelles sinueuses dans lesquelles beaucoup de films ont été tournés, comme par exemple Van Helsing, un film fantastique américano-tchèque. Aujourd'hui, les maisons pittoresques du centre historique de Tabor, qui est une réserve protégée, sont complètement restaurées. L'histoire du mouvement hussite est à découvrir dans le cadre d'une exposition installée dans les locaux de l'hôtel de ville. À quelques pas de là, le musée du chocolat récemment ouvert est une des curiosités de Tabor, dont Jaroslava Gisubelova vous parlera dans ce magazine touristique de Radio Prague.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Avec ses 37 000 habitants, Tabor est après České Budějovice, c'est la deuxième ville de Bohême du Sud, région romantique riche en étangs, églises baroques et châteaux de tout style. C'est en 1420 que commence réellement l'histoire de la ville de Tabor. En établissant leur quartier général sur les ruines d'un château fort du XIIIe siècle, les Hussites, profondément religieux, renomment l'endroit en faisant référence au mont Tabor en Israël, où la Bible situe la Transfiguration du Christ. L'église de la Transfiguration se dresse sur la place centrale de Tabor, baptisée du nom du chef de guerre hussite Jan Žižka. La tour de l'église offre une vue magnifique de la ville, construite sur un promontoire qui surplombe la rivière Loujnice. La retenue d'eau sur la Loujnice, qui entourait les murailles, porte elle aussi un nom biblique, le Jourdain. Roman Protkovski est guide touristique à Tabor.
Tabor, c'était un état dans l'état, le pays des Hussites, les Taborites, comme on appelle l'aile gauche, pourrait-on dire, du mouvement hussite. Inspiré par les doctrines de Jan Hus et orienté contre le pouvoir royal, ce mouvement social et religieux exigeait la reconnaissance des quatre articles de Prague, la communion sous les deux espèces, la pauvreté des ecclésiastiques, la punition des péchés mortels sans distinction et la liberté de prêche. Afin d'acquérir le plus d'adhérents, le mouvement avait besoin d'émissaires érudits. Ainsi, une école publique hussite a été créée dans la grande salle de l'hôtel de ville de Tabor. Cette école a été ouverte non seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. À l'époque, chaque citoyen de Tabor devait se donner pour tâche de copier au moins une fois dans sa vie le texte de la Bible.
La salle dans laquelle les Taborites avaient au XVe siècle leur école est la deuxième plus grande à l'échelle du pays, raconte Jana Lorenzova du Centre d'information touristique de Tabor.
La salle de l'hôtel de ville de Tabor est la deuxième par ses dimensions, après la salle Vladislav au château de Prague. Aujourd'hui, elle accueille des expositions, des cérémonies de mariage, etc. Au milieu de la salle se trouve la statue équestre du fondateur de la ville, Jan Žižka. Réalisée par le sculpteur Bohumil Kafka, c'est un modèle en miniature de la statue équestre de Jan Žižka au Mémorial national de Vítkov à Prague, réputée pour être la plus grande statue du genre en Europe. Sur les armoiries de la ville exposées dans cette salle, l'année 1437 est la date à laquelle Tabor devint ville royale.
Les sous-sols de l'hôtel de ville historique de Tabor donnent accès à un étonnant réseau de galeries souterraines long de 800 mètres qui se cachent en dessous de la place centrale et qui servaient à l'origine à stocker de la bière. Les touristes en visite de Tabor peuvent se servir d'un guide GPS pour mieux s'orienter dans la ville et aussi pour parcourir deux circuits proposés dans le cadre du géocaching, l'un qui leur permet de découvrir les particularités historiques, l'autre long de 10 km qui présente les curiosités naturelles de la région. Les amateurs d'histoire ne manqueront pas de visiter la nouvelle exposition du mouvement hussite, ouverte en 2010 au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville de Tabor. Sa conception diffère de celle qui s'y trouvait depuis les années 1980. À l'entrée, elle présente quelques armes redoutées des hussites, chariots de combat, lances, hallebardes, épées, plombées, arbalètes, arquebuse. Une salle est dédiée à Jan Žižka, chef de guerre hussite, qui s'est d'abord illustré au service du roi. Bien que figure controversée de l'histoire tchèque, ses succès n'ont pas été guidés que par des buts militaires, explique Jakub Smrčka, directeur du musée hussite de Tabor.
Il avait l'ambition d'être un véritable chevalier de Dieu, combattre pour la cause du Christ. Žižka a étudié l'écriture sainte, il a cherché à vivre en accord avec la Bible et il a aussi strictement observé les principes de l'Ancien Testament en incluant quelques-uns de ses principes dans la discipline militaire de ses soldats.
L'exposition évoque les sources du hussitisme, l'enseignement de Jan Hus qui a prêché contre les maux de la société et l'Église avant d'être brûlé comme hérétique à Constance. Elle nous rappelle que les idéaux du hussitisme ont inspiré le premier président tchécoslovaque Tomáš Garrigue Masaryk.
Masaryk s'est réclamé du legs du hussitisme en y voyant un mouvement précurseur des traditions démocratiques. Le souvenir de Jan Hus et la symbolique hussite ont aussi été un réconfort moral important pour tous ceux qui ont pris part aux conflits guerriers dans le courant du XXe siècle, notamment pour les légionnaires tchécoslovaques.
La ville de Tábor, c'est aussi le musée de photographie historique dont les archives comptent près de 18 000 clichés. C'est le bâtiment néo-renaissance du théâtre Oscar Nedbal, la tour du château gothique disparu de Kotnov, et c'est avant tout la place centrale avec une statue de Jan Žižka, une jolie fontaine renaissance. Pas loin de cette place, le musée du chocolat ouvert en septembre dernier dans un bâtiment qui a connu lui aussi le passé ici de Tábor. Après une rénovation complète, sa nouvelle propriétaire Petra Kovandová, installée dans ses locaux un musée unique en son genre dans la région.
Notre idée était de proposer quelque chose en plus aux visiteurs, de montrer non seulement l'histoire du chocolat et du masse-pain. Comme nous faisons nous-mêmes nos produits et nos pralines, nous avons décidé de permettre aux gens d'observer la production pour leur faire voir directement, à travers une vitre, comment les pâtissiers fabriquent nos spécialités, parmi lesquelles les pralines fraîches fourrées d'extraction de plantes médicinales, d'épices, de vanille, d'aneth, de chili ou de wasabi aussi. Par exemple, de formes et de compositions les plus diverses.
Le musée du chocolat se répartit sur plus de 1000 mètres carrés sur trois niveaux avec des centaines d'objets de collection, porcelaine, emballage historique de chocolat, boîte à cacao. Le premier étage nous fait découvrir toute l'histoire du chocolat, s'étalant sur près de 4000 ans depuis les Olmèques jusqu'à notre civilisation. Après la défaite de l'empire aztèque du souverain Montezuma II qui aurait consommé jusqu'à 50 tasses de chocolat par jour, le chocolat chaud arrive en 1527 via l'Espagne en Europe. Devant une fontaine à chocolat, création extravagante du designer Božek Šípek qui domine la salle principale du musée du chocolat, Petra Kovandová répond à ma question de savoir ce qui l'a poussée à l'ouverture de ce musée.
L'idée est née pendant que je travaillais dans ma firme qui fournissait depuis une vingtaine d'années sur le marché des préparations pour pâtisserie, garniture, glaçure, décoration. Un jour, je me suis dit qu'il faudrait fabriquer quelque chose d'original et c'est ainsi que j'ai commencé à chercher l'inspiration en Europe. Comme j'ai toujours admiré les Belges et leur chocolat, j'ai suivi une formation chez des chefs pâtissiers en Belgique et j'ai entièrement succombé au charme de la praline. Après avoir visité plusieurs musées du chocolat en Europe, j'ai décidé d'ouvrir un musée vivant qui non seulement retrace l'histoire du chocolat, mais qui permet d'observer sa production. Plus de 7 ans se sont écoulés avant que l'idée de départ puisse être réalisée dans la pratique. J'ai cherché l'inspiration à Bruxelles, mais aussi à Bruges, qui est la capitale mondiale du chocolat, avec ses nombreuses boutiques de chocolat et son musée du chocolat Choco Story.
Nous étions donc à Tábor avec Jaroslava Gisubelova dans sa rubrique Pays du tourisme. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt.